Bonjour, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Et pour le message ce matin, nous allons lire donc Actes chapitre 6 et regarder les versets 1 à 7 dans ce texte. Actes chapitre 6, ça vaut la peine d'ouvrir vos Bibles parce qu'on va passer beaucoup de temps juste dans ces quelques versets qui sont là. Il faut savoir une chose dans vos Bibles, peut-être que l'entête que vous avez, c'est l'institution des diacres ou les premiers diacres qui est là. Moi, je propose un autre titre pour aujourd'hui qu'on appelle la première assemblée générale ici de l'Église. Parce que nous verrons que nous avons affaire à une assemblée générale de l'Église de Jérusalem dans ce texte. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, après le culte, il y aura l'assemblée générale de l'Église de Genève. Donc vraiment, on ne pourrait pas choisir mieux. Mais voici la lecture d'Actes, donc Actes chapitre 6, et on va commencer en regardant les versets 1 à 6. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on ronde un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Bon, voici donc ce texte de cette première assemblée générale de l'Église de Jérusalem. Et on pourrait passer toute une étude là-dessus, mais on n'a pas d'étude aujourd'hui. Donc j'aimerais juste souligner trois points, trois choses importantes que nous voyons dans ce texte. C'était des choses qui étaient importantes pour l'Église de Jérusalem au 1er siècle, mais qui, je crois, sont encore importantes pour nous aujourd'hui, lorsqu'on lit ce texte et lorsqu'on considère ce que nous y trouvons. Déjà, premièrement, lorsqu'on lit ce texte, avec le reste des récits au sujet de l'Église de Jérusalem, dans le livre des Actes, une chose qui me frappe, c'est l'importance de la bienfaisance dans cette Église. L'importance de la bienfaisance. Quand on parle de bienfaisance, on parle de donner des ressources matérielles et parfois aussi émotionnelles à ceux qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas répondre à ces besoins eux-mêmes. La bienfaisance, c'est d'une manière très pratique de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et nous savons que l'Église de Jérusalem était très forte pour faire cela, pour venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Dans Actes chapitre 2, les versets 44 et 45, Actes 2, 44 et 45, nous lisons ceci. « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Dans cette description de ces réunions de la première assemblée à Jérusalem, Luc nous dit que les gens vendaient ce qu'ils avaient et qu'ils le distribuaient. Et pas parce qu'ils avaient un idéal communiste qui était là, mais la raison c'était qu'il y avait des besoins dans l'assemblée. Et donc ils vendaient ce qu'ils avaient pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs. Quelques chapitres plus tard, dans Actes chapitre 4, les versets 34 et 35, nous lisons « Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Et de nouveau, on voit l'Église qui voit des besoins chez les frères et les sœurs et qui veulent répondre à ces besoins. Et on se souvient de l'étude de Doyle qui a parlé de ce Barnabas qui lui avait donné à même tout un champ pour pouvoir servir les autres. Et l'Église a vu Barnabas et a dit « Voilà quelqu'un qui est bien parce qu'il vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. » Bon, lorsqu'on regarde dans Actes chapitre 6, de nouveau, on est en train de parler de bienfaisance. Et on découvre que parmi les personnes qui étaient dans le besoin, il y avait les veuves qui recevaient probablement donc de la nourriture régulièrement de la part de l'Église. Mais le problème ici, c'est que l'aide qui est faite en faveur des veuves est en danger à cause de ces problèmes entre les hellénistes et les Hébreux. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le soin qu'on apportait aux veuves était un sujet extrêmement, extrêmement important. Il y a plus d'une dizaine de passages dans l'Ancien Testament qui parlent d'une manière spécifique du soin qu'on doit apporter aux veuves dans la communauté. Et une des raisons que Dieu a dit avoir jugé Israël du Nord et Juda avec les invasions de l'Assyrie et de la Babylone, c'était parce qu'ils ne venaient pas en aide aux veuves qui étaient parmi eux. Vous savez, l'Église du 1er siècle a continué ce travail de Dieu pour venir en aide à ceux qui étaient dans ce besoin, ces veuves qui n'avaient rien. Les veuves dont le besoin sont nourris par l'Église, donc dans Actes chapitre 6, mais on se souvient aussi de Dorcas, n'est-ce pas, Dorcas, qui était connu dans son assemblée comme quelqu'un qui préparait des vêtements pour les veuves de son assemblée. Lorsque Paul écrit à Timothée, il parle du ministère des veuves qui se réunissaient pour prier pour l'assemblée. Et Jacques, le frère de Jésus, parle du fait que la vraie religion que nous avons, la vraie religion, s'exprime dans le soin qu'on amène aux veuves et aux orphelins. Et l'Église puisait dans ses racines, dans l'Ancien Testament, pour continuer ce désir de venir en aide et de subvenir aux besoins, premièrement de ceux de leur communauté, mais aussi, on sait, ils sont venus en aide aux autres, même en dehors de l'Église. Et par conséquent, lorsqu'il y a un problème qui surgit dans le soin des veuves de l'Église, il n'y a personne qui dit « bon, ce n'est pas grave, parce que c'est juste les veuves ». Il n'y a personne dans l'Église qui dit « bon, on ne va pas se focaliser sur ce problème parce que c'est juste le ministère de bienfaisance qui est là ». Lorsqu'il y a un problème dans la distribution de nourriture aux veuves, tout le monde dit « il y a besoin de faire quelque chose pour régler ce problème ». Et les apôtres vont aller jusqu'à convoquer toute l'assemblée pour pouvoir parler et gérer ce problème qui est apparu et pour régler le problème. Il faut remarquer tout de même dans le texte que deux fois les apôtres disent « ce n'est pas notre responsabilité première », n'est-ce pas ? Pour les apôtres, quel était leur devoir donné par Christ ? Okay. La parole, ils disent, n'est-ce pas, qui contient l'évangélisation, et la prière. Les apôtres disent très clairement « notre mission confiée par Dieu, c'est le ministère de la parole, et donc ça c'est l'évangélisation, mais c'est aussi l'enseignement, et c'est le ministère de la prière, de prier avec les gens, de prier pour l'Église et de continuer ». Et bien sûr, les apôtres étaient aussi des bergers, étaient aussi des responsables de l'Église. Mais ils disent deux fois dans le texte, ce n'est pas notre responsabilité première, mais par contre, ils veulent s'assurer qu'il y ait des gens responsables pour s'assurer que la bienfaisance puisse continuer dans l'Église. Et toute l'Église est impliquée dans la solution. Ce n'est pas juste Pierre et Jean qui disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On trouve la solution. Toute l'Église est appelée et engagée en devant choisir eux-mêmes ces hommes qui seront responsables pour s'occuper des veuves. On voit aussi les qualités qu'il fallait chez ces hommes. Des gens de bonne réputation, des gens pleins de sagesse, des gens pleins d'Esprit Saint. Voilà les qualités qu'on cherchait chez ceux qui s'occupaient des veuves. De nouveau, on dirait que ce sont des qualités assez importantes, n'est-ce pas ? Si on dit dans l'Assemblée ici, bon, trouvons tous ceux qui sont le plus pleins de sagesse, qui ont la meilleure réputation, et puis qui sont pleins d'Esprit Saint, et tout le monde le voit. Et ces personnes-là, bon, ils vont s'occuper de la bienfaisance, de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Bon, ça montre l'importance qu'on accorde à cela. La question de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, dans l'Église, premièrement, n'est pas un détail pour l'Assemblée de Jérusalem. Et ce n'est pas non plus du marketing pour pouvoir parler de l'Église en disant, bon, vous savez, l'Église, on prend bien soin des pauvres. Vous savez, l'Église, on fait beaucoup de bien un matériel aux gens. C'est pas l'idée ici, ils veulent faire de la bonne pub pour l'Église. Okay. C'est une réalité et un besoin spirituel profond dans l'Église d'aider ceux qui sont dans le besoin. Bon, qu'est-ce que ça change pour nous en tant qu'Église ? De voir l'exemple, pas juste dans chapitre 6, mais répété sans arrêt. Bon, je crois qu'il y a d'abord un appel dans nos vies personnelles pour nous dire est-ce qu'on travaille pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin ? Dans une culture prospère, comme la nôtre, peut-être ça s'exprime par la charité ou l'aide envers d'autres pays qui sont en voie de développement. Mais peut-être ça s'exprime aussi dans le fait de visiter et d'encourager ceux qui sont malades, ceux qui sont âgés et qui ont besoin d'encouragement spirituel. Et si nos vies, si on ne trouve rien dans nos vies qui montre cela, qui montre de la bienfaisance, je crois qu'il y a un problème qui est là. Je crois aussi que c'est une occasion pour nous. Si vous êtes certaines personnes qui vous êtes dites en 2016, j'aimerais vraiment grandir dans mon engagement pour l'Église. J'aimerais vraiment grandir dans ma vie spirituelle. Bon, pensons à la bienfaisance, de dire bon, quelles sont les œuvres que l'Église fait pour aider les autres. Comment est-ce que moi je peux faire ça? Ou comment est-ce que l'Église peut faire plus dans ce domaine et moi je peux utiliser mes dons à profit pour cela? Dorcas, dans Actes chapitre 9, c'est l'exemple de cela, n'est-ce pas? Une femme qui semble ne pas avoir eu une vie très extraordinaire, sauf le fait qu'elle avait choisi dans sa vie de venir en aide aux veuves et aux pauvres dans sa communauté en leur faisant des vêtements. Et je crois qu'il y a un appel pour l'Église ici de développer toujours plus de Dorcas et d'autres serviteurs pour ceux qui sont dans le besoin. Bon, une Église qui met l'importance dans la bienfaisance. Mais deuxièmement, on a ici une Église qui sait répondre aux crises et aux conflits internes. Bon, on va faire une petite expérience, d'accord? Tous les chrétiens suisses, ici, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Tous les chrétiens suisses. Okay. Il y en a pas mal. Okay. Maintenant, tous les chrétiens français, veuillez lever la main. Okay. D'accord. Alors, il y a une situation intéressante dans l'Église aujourd'hui. On a à peu près moitié-moitié des chrétiens suisses et des chrétiens français. Bon, plus ou moins. Il y avait un peu plus de Suisses. J'ai vu quelques mains en plus. Bon, dans l'Église de Jérusalem, il y avait quelque chose d'intéressant. On appelait les chrétiens hellénistes et les chrétiens hébreux. Et pour nous, ça peut nous sembler un peu bizarre. De quoi est-ce qu'on parle ici? Bon, il faut savoir, Luc ne dit pas qu'il y avait des Grecs et des Juifs, d'accord? Mais il dit bien qu'il y avait des hellénistes et des hébreux. Et la raison qu'il parle de cela, c'est qu'à cette époque, la population juive, plus ou moins, était séparée dans deux groupes. Il y avait ceux qui étaient de langue principale araméenne ou hébreu. Et ça, c'était les gens qui venaient généralement de la Terre Promise, donc la Palestine. Et ils avaient l'habitude de lire les écrits, d'adorer Dieu en hébreu ou en araméen. Et de l'autre côté, il y avait les Juifs qui étaient de langue maternelle ou de langue principale grecque. Et eux, ils avaient l'habitude de lire les Écritures en grec et de louer Dieu en grec. Alors bien sûr, il y avait un peu un enchevêtrement entre ces deux groupes, et souvent ils étaient bilingues aussi. Mais en général, on avait deux types de Juifs, les Juifs plutôt grecs et les Juifs plutôt hébreux, au niveau de la langue. Et ce qui s'est passé, c'est lorsque l'évangélisation a commencé, les gens ont été baptisés, ils sont restés quand même des gens plutôt grecs, ou plutôt hébreu. Okay. Comme lorsque vous êtes devenu chrétien, vous êtes resté français ou suisse, ou même il y a des Américains ici, à ce qui paraît. Mais bref, vous avez gardé cet héritage culturel et linguistique qui était là, okay, et qui va continuer. Mais le problème ici, c'est qu'on a vu qu'un certain groupe, ici le groupe des chrétiens qui parlaient plutôt le grec, ils étaient moins bien traités dans la bienfaisance que les autres. Et donc il y a un conflit qui commence. Et donc il y a les chrétiens grecs qui commencent à murmurer, qui commence à se plaindre des chrétiens hébreux parce qu'on traite moins bien leurs veuves. Et on se souvient, maltraiter les veuves, c'est extrêmement grave. D'accord? Bon, on ne sait pas s'il s'agit ici d'une faute de négligence, d'accord? Tout simplement, quelqu'un ne faisait pas attention et puis c'est arrivé comme ça. On ne sait pas si c'est intentionnel, ou quelqu'un avait des préférences. Il disait, bon, on est à Jérusalem, alors les gens de Jérusalem en premier et puis ceux qui parlent le grec après. Mais quoi qu'il en soit, il y a un problème qui arrive. D'un côté, un groupe qui semble maltraiter les autres, qui néglige l'autre, et puis de l'autre côté, un groupe qui se plaint et qui murmure contre l'autre. Voilà une crise qui entre dans l'Église. Et puis regardez ce que les apôtres font. Bon, ils disent, mince, il y a une crise, on va essayer de faire taire les murmures, n'est-ce pas? Ils disent, bon, on va essayer de cacher le problème en douce. Non, pas du tout. Ils disent, il y a de la division qui commence dans notre assemblée. On va réunir tout le monde et on va trouver une solution pour cela. Face à la division, face à la crise, les apôtres disent qu'il faut régler le problème avant que cela ne devienne encore plus grave. Et les apôtres reconnaissent qu'un problème, ce problème plutôt que de le cacher. Et j'adore leur attitude lorsqu'ils essayent de régler le problème. Premièrement, ils n'hésitent pas à partager leur pouvoir. Vous vous souvenez, avant, on amenait l'argent aux pieds des apôtres. Et sans doute, les apôtres, ils étaient assez impliqués dans ce qu'on faisait avec l'argent. Mais ici, ils disent, bon, avec les problèmes qui viennent et tout, ce n'est pas à nous de régler tout cela. Mais on va désigner des hommes qui sont fidèles, d'accord, qui sont pleins d'esprit, pleins de sagesse, pour régler le problème pour nous. Ils ne voient pas comme leur devoir principal de gérer les finances et la bienfaisance de l'Église. Okay. C'est fascinant, n'est-ce pas? Parce que tellement dans la vie religieuse aujourd'hui, on voit que les chefs sont très impliqués dans la vie financière de leurs églises, de leurs communautés religieuses. Les responsabilités officielles sont souvent centrées sur l'argent qui est là. Mais ici, nous voyons que les apôtres ne veulent pas ça. Je me souviens, ça fait bientôt 10 ans maintenant, mais on avait une assemblée générale à Lausanne, et pendant l'assemblée générale, on a bien sûr parlé des finances, la partie la plus ennuyeuse de l'assemblée générale. Mais un frère qui venait d'être baptisé a dit, j'aimerais juste dire quelque chose, c'était avant la fin de l'assemblée générale. Il a dit, c'est ma première fois dans toute ma vie qu'une église parle ouvertement de d'où vient l'argent, ce qu'on fait avec l'argent, et quels sont l'état des finances. Il a dit, et ça me touche beaucoup. Parce que toute sa vie, pour lui, les chefs religieux étaient ceux qui gardaient secret ce qu'on faisait avec l'argent et comment on s'en servait. Et l'idée que ce soit ouvert à tous, que l'Église puisse être au courant du travail de l'Église à ce niveau-là, c'était quelque chose de nouveau. Bon, ici, les apôtres ne cherchent pas le contrôle financier de l'Église. Ils cherchent à servir Dieu d'une manière qui est intègre. Ils ne cherchent pas non plus à se protéger de rivaux. Quand on regarde la description de ces 7 hommes, on dit « Waouh, voilà des gens spirituels, voilà des gens sages, voilà des gens importants ». Et on pourrait dire, bon, en leur donnant du pouvoir, on est en train de créer des mini-compétiteurs aux apôtres, n'est-ce pas? Bon, ça entre jamais dans leur pensée. Les apôtres vont jusqu'à dire ceci à l'Église, c'est vous qui allez choisir les hommes responsables de ce ministère. Bon, ils vont donner, bien entendu, des consignes sur comment choisir ces hommes. Ils vont dire aussi, c'est nous qui allons consacrer leur vie à ce service, mais c'est l'Église qui choisit les 7 hommes qui sont là. Et de nouveau, les apôtres, face à cette crise, cherchent une solution qui honore Dieu, et qui respecte l'Église et qui est pour le bien de tous, mais ils ne cherchent pas à se protéger eux-mêmes. C'est la multitude des disciples qui choisit les hommes, parce que c'est eux qui ont vu le problème. Et les apôtres disent, et donc c'est à vous que revient la responsabilité de résoudre ce problème. Choisissez parmi vous ceux qui vont gérer cette crise. En commençant avec ces apôtres, nous voyons une Église qui répond à ces crises ni par la crainte, ni par un règlement de compte. Okay? On ne sait toujours pas aujourd'hui qui est responsable de cette négligence, mais par contre, on voit une Église qui désire honorer Dieu dans tout ce qu'elle fait, sans cacher, sans rejeter la faute sur un autre, sans non plus chercher à punir les coupables qui n'ont pas fait assez attention dans le service des veuves. Leur but, c'est de trouver des hommes fidèles qui puissent honorer Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on est presque 20 siècles après le temps de l'Église de Jérusalem, on sait qu'ils ont mal fait leur boulot en s'occupant des veuves au début. Nous sommes au courant parce qu'ils ont osé parler ouvertement du fait qu'ils ne s'étaient pas occupés des veuves correctement jusqu'à là. Et nous le savons presque 2000 ans après. Bon, c'est un peu gênant pour l'Église, n'est-ce pas, d'avoir cette tâche sur leur réputation, sur leur compte-rendu de l'année. Bon, non, on voit ici que lorsque l'Église fait une erreur, elle cherche à honorer Dieu dans cela. Et cela, c'est plutôt un encouragement pour nous, plutôt qu'un découragement. Bon, très rapidement, pour finir, on a vu une Église qui répond aux crises d'une manière intègre et qui cherche à honorer Dieu. Une Église qui cherche à faire le bien. Et puis finalement, on voit ce choix modèle de responsables et des responsables qui sont modèles. Ces 3 vertus qu'on cherche chez ceux qui vont diriger ce ministère, c'est la réputation, déjà. Et c'est intéressant qu'on parle de réputation, non? De dire, bon, l'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Bon, il y a plus de critères que juste la réputation. Mais c'est important de savoir ici que les apôtres veulent s'assurer que ceux qui s'occupent de l'argent et ceux qui s'occupent de servir ceux qui sont plus faibles qu'eux soient connus pour leur intégrité et soient connus pour leur bonté. Le but ici, d'un côté, est préventif. Okay? Ces gens seront responsables dans l'Église, responsables d'autres personnes. Et on veut des gens qui sont responsables, qui ont montré leur intégrité, qui ont montré qu'ils sont dignes de confiance. Vous vous souvenez que Paul ne faisait pas que prêcher. Il prenait des collectes pour les amener à Jérusalem, pour aider les pauvres de Jérusalem. Mais une chose qu'il faisait toujours, c'était pas juste de prendre de l'argent avec lui, mais il prenait des représentants des églises qui avaient donné de l'argent pour amener l'argent avec lui. Et le but de cela, ce n'était pas d'avoir des gardes du corps sur les routes, mais c'était que l'église d'où il partait et l'église où il arrivait pouvait voir qu'ils avaient pris soin de l'argent, que rien n'avait été détourné et qu'il y avait de l'intégrité dans ce qu'on faisait avec. Paul fera toujours attention d'éviter de recevoir des fonds des églises là où il se trouve. Il avait le droit d'être payé pour son travail, mais il évitait de le faire d'un côté pour aider l'église, mais de l'autre pour ne pas avoir la réputation de quelqu'un qui profitait des chrétiens. Et la raison qu'il fait cela, ce n'est pas parce qu'il avait crainte lui-même de ne pas être intègre, mais la valeur du message qu'il portait devait être protégée dans sa réputation. Bon, Paul était quand même critiqué beaucoup pour ce qu'il faisait, mais il faisait tout ce qui est possible pour montrer au monde son intégrité d'une manière qui était correcte, en impliquant d'autres personnes dans le travail qui était là. Et donc ces hommes, ces responsables qui sont choisis, doivent être des gens connus pour leur fidélité dans les petites choses jusque-là. Et maintenant l'Église va leur confier un travail qui est plus important. Donc ce sont des hommes connus pour leur sagesse. Okay, pour leur sagesse. Est-ce que ces personnes savent gérer les ressources qui leur sont données? Est-ce que c'est des personnes qui savent aussi gérer leurs relations humaines et vivre avec les autres? Quand la Bible parle de sagesse, on ne s'arrête pas à l'intelligence, d'accord, le nombre d'informations qu'on a, le sens de répartie. L'idée ici, c'est vraiment l'intelligence de vie. D'accord. Comment est-ce que ces gens savent vivre avec les autres? L'intelligence pratique, comment est-ce qu'ils prennent leur choix dans la vie? Est-ce que ces gens savent comment être avec d'autres, comment traiter les autres d'une manière correcte et avec respect? Et toutes ces choses entrent dans la sagesse. Et puis finalement, des hommes pleins d'esprit, où on peut voir l'esprit de Dieu à l'œuvre. Et bon, dans les actes, on pense esprit, on pense miracle, n'est-ce pas? Bon. Et certainement, on verra dans la vie d'Étienne, on verra dans la vie de Philippe, beaucoup de miracles qui se font. On voit chez les apôtres, pleins d'esprit, qui font aussi des miracles au nom de Dieu. Mais quand Luc parle d'esprit, je crois qu'il y a beaucoup plus ici que des pouvoirs miraculeux. Dans le livre des actes, un enseignement fidèle au plan de Dieu, un enseignement fidèle au message de Christ est décrit comme un enseignement plein d'esprit. Je vous dis juste, dans Actes chapitre 4, c'est Pierre qui prêche plein d'esprit. Il n'est pas en train de faire des miracles, il est en train de raconter fidèlement l'évangile. Dans Actes chapitre 7, Étienne est décrit comme plein d'esprit. Est-ce qu'il est en train de faire des miracles? Non, il est en train de prêcher fidèlement l'évangile de Christ. Et dans Actes chapitre 13, plein d'esprit, cette fois c'est Paul qui est en train de proclamer le nom de Christ. Être rempli de l'esprit, premièrement, c'est de connaître le plan de Dieu et de le dire avec vérité. L'esprit de vérité s'exprime dans les paroles des apôtres. Et on ne peut pas prétendre être plein d'esprit quand lorsqu'on raconte ne correspond pas au plan de Dieu, ni à sa parole. Mais l'autre chose qui vient avec, c'est être plein d'esprit, c'est une manière de vivre. Nous connaissons ce texte, mais ça vaut la peine de le répéter. Paul parlait tellement de ce que c'était que d'être plein de l'esprit. Dans Galates 5, versets 22 à 25, voici ce qu'il dit. Galates 2, 5, 22 à 25. « Mais le fruit de l'esprit, donc l'effet de l'esprit dans la vie des croyants, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Comment savoir si quelqu'un a l'Esprit? Bon, est-ce que leurs paroles correspondent à la parole de Christ? Mais est-ce que leur vie corresponde à la vie de Christ? Et donc l'Église se rassemble et ils vont parler entre eux, ils vont chercher ces hommes et ils en trouvent sept. Un gloire à Dieu, n'est-ce pas? Pour une Église avec ces sept hommes. Et ils sont consacrés pour le service. Et nous terminons simplement avec la lecture du verset 7. Après cette crise, après ces problèmes, l'Église arrive à une résolution et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ce verset-là, dans le livre des Actes, nous arrivons au point d'orgue, au point culminant de l'évangélisation de Jérusalem. Non seulement partout à Jérusalem, on prêche, mais même les sacrificateurs commence à croire. Et nous voyons ici l'accomplissement de la parole de Christ dans Actes 1, verset 8, en disant « Vous allez commencer à Jérusalem, puis la Judée, la Samarie et les extrémités du monde. » Nous découvrons que ça y est pour Jérusalem. L'évangile est proclamé, l'Église grandit, même les sacrificateurs croient. Et à travers ces difficultés, à travers ces luttes, nous voyons l'accomplissement de la parole de Christ.